Bonjour.
Merci d'être venu pour cette séance malgré les vacances. On va aller dans la continuation des mécanismes épigénétiques, mais on va passer des mécanismes moléculaires à une vision de l'ensemble des génomes ou de l'ensemble du génome humain. Je me suis concentré sur le génome humain, même si ce que je vais vous montrer, on peut le faire aussi pour d'autres espèces. On le fait pour les plantes, pour les insectes, pour les levures, pour des tas d'autres. Et évidemment pour la souris, le rat, les organismes modèles de l'humain. À la fin, je vais vous montrer quelques études qui ont été faites sur l'humain. Et ce sera une mise en bouche, une introduction à la séance prochaine, où on va vraiment s'attaquer à la question centrale de ce cours, qui est-ce qu'il y a une transmission transgénérationnelle des modifications épigénétiques et de l'impact de notre environnement sur le fonctionnement du corps via les mécanismes épigénétiques. Mais pour ça, il nous manque encore quand même quelques ingrédients très importants et qui sont justement ceux sur lesquels se fondent toutes les études actuelles. Et il y a vraiment eu, par rapport à ce que je vous ai expliqué la fois passée et maintenant, un réel changement d'échelle dans les études qui sont menées actuellement. La fois passée, je vous ai parlé des facteurs transcriptionnels, donc des protéines spécialisées qui reconnaissent des endroits particuliers du génome et qui vont activer ou réprimer l'expression des gènes avoisinants. Et puis je vous ai dit, mais il existe d'autres mécanismes qui sont épigénétiques, qu'on appelle épigénétiques, et ces mécanismes-là, ils agissent via des modifications de la chromatine. Et donc j'avais commencé à vous expliquer un petit peu brièvement ce que c'est que cette chromatine, on va revenir là-dessus. Et je vais surtout vous montrer comment fonctionnent ces mécanismes et avec quelques exemples bien particuliers où on voit vraiment qu'ils sont à l'œuvre. La chromatine, c'est de l'ADN et des protéines. En fait, c'est la structure dans laquelle est emballé l'ADN qui forme les chromosomes. Et donc, on appelle chromatine initialement parce que c'est les corps colorés sur les coupes microscopiques. On les distingue assez facilement. Et ce qu'on voit souvent sur les caryotypes, c'est cette forme-ci de X, hein, qui est un chromosome extrêmement compact. Et en fait, ce chromosome, il contient une grosse partie de l'information génétique d'un individu, puisque chacun de nous a 23 paires de chromosomes. Donc, dans chacune de nos cellules, on a 46 chromosomes de cette sorte-là. Et pendant la division, à un moment, ils sont complètement compactés. Et puis, à ce moment-là, il y a la séparation des deux cellules et le partage des chromosomes entre ces deux cellules. Mais pendant le fonctionnement de la cellule, en fait, la chromatine, elle n'a pas cette forme aussi compactée, elle est déroulée par endroits et compactée par d'autres. Et ça, c'est par toute une série de super-enroulements. Donc, ce qu'il y a entre ce chromosome compacté et l'ADN tel qu'on le décrit habituellement, c'est-à-dire cette double hélice extrêmement longue, comme je vous l'avais dit la fois passée, hein, il faut imaginer cette hélice où il y a des paires de bases et où chaque paire de bases, en fait, il y a une possibilité entre quatre, qu'on représente par la lettre A, C, G, T. Et puis, pour un chromosome humain, ça varie entre 50 millions et 250 millions de paires de bases. Donc, c'est extrêmement long. Et l'ensemble du génome humain fait 3 milliards de paires de bases. Et je vous avais parlé du fait que cette hélice, cette double hélice, s'enroule autour d'un complexe protéique. Et ce complexe protéique, on peut le voir ici, il est constitué de 8 protéines. Alors, je vous le remontre parce qu'après, on va un petit peu s'intéresser aux queues qui dépassent ici. Donc, ce complexe, il y a ici, vous voyez au milieu des petites hélices qui sont en fait la protéine, ce qu'il y a en rouge, en jaune ici, en bleu. Et puis, vous voyez autour cette double hélice qui est l'ADN. Donc, les petites hélices comme ça, toutes simples, ça, c'est des hélices alpha des protéines, c'est les structures tertiaires des protéines. Et puis, la double hélice colorée qui fait un double anneau ici, ça, c'est de l'ADN. Et typiquement, ce corpuscule-là, on appelle ça un nucléosome, c'est un complexe qui est formé de 8 molécules qu'on appelle histones, et l'ADN fait 2 tours autour de ce nucléosome. Et c'est extrêmement précis, point de vue moléculaire, ça fait exactement 147 paires de bases pour faire 2 fois le tour, et puis ça repart. Et ensuite, l'ADN, il y a quelques centaines de paires de bases qui sont libres, et puis un nouveau nucléosome autour duquel il s'enroule, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça qui donne cette structure ici qu'on représente à cet endroit-ci avec un nucléosome, un espace d'ADN libre, un nucléosome, un espace d'ADN accessible, etc. Alors, ces nucléosomes, comme vous le voyez, il y a des morceaux qui dépassent, là, des queues, on les appelle les queues. Et ces queues-là, elles vont donner naissance à un des mécanismes les mieux connus, les mieux caractérisés actuellement de la régulation épigénétique. Ici, vous voyez aussi cette condensation de l'ADN et on voit une cellule, c'est une vision tout à fait différente, ça c'est une vraie photo, c'est une image en microscopie électronique, et on voit le noyau cellulaire, donc la cellule continue autour, ici il y a le cytoplasme, le corps de la cellule, à l'intérieur de cette cellule, il y a un noyau qui contient tout le matériel génétique nucléaire, il y a aussi du matériel génétique dans les mitochondries, mais on ne va pas en parler maintenant. Et donc, l'essentiel du matériel génétique est dans le noyau, et on voit qu'il y a des zones claires ici, mais ces zones claires sont pleines d'ADN, et puis il y a des zones très foncées sur les bords ici, et ça, c'est une forme extrêmement compactée de l'ADN. Donc, sur les chromosomes, même au moment où ils sont relativement déroulés, il y a des régions qui vont être très compactées, et qu'on va appeler hétérochromatine. Donc, on va distinguer deux types de chromatine, celle qui est assez déroulée, assez accessible, et où va se passer la transcription, donc ça c'est une chromatine qui va être active en fait, qui va se prêter à la transcription, on va faire de l'ARN à partir de l'ADN, et puis une fois qu'on a l'ARN, on va faire des protéines, donc c'est les régions actives du génome. Et puis les régions extrêmement compactes ici, en fait, elles sont inactives, elles sont transcriptionnellement inactives, elles sont très compactées. Alors il y a des études récentes qui montrent que peut-être qu'il y a des démarrages de transcription, mais qu'en tout cas ça ne produit rien. Donc ça, c'est encore des choses très très récentes. Mais en tout cas, c'est une région de toute façon du chromosome qui n'intervient pas dans le fonctionnement régulier de la cellule. Et cette hétérochromatine, on la trouve d'une part dans les centromères, c'est-à-dire au centre des chromosomes, et d'autre part dans ce qu'on appelle les télomères, c'est-à-dire les extrémités des chromosomes. Et il y a un endroit aussi qui est particulier d'hétérochromatine, c'est que dans les cellules des mammifères femelles, il y a un chromosome qui est complètement sous forme d'hétérochromatine et c'est une des deux copies du chromosome X. Donc on appelle ça l'inactivation du X. Et chez les mâles, il y a un chromosome X et un chromosome Y. Chez les femelles, il y a deux chromosomes X. Si ces deux chromosomes X étaient tous les deux actifs simultanément dans toutes les cellules, en fait, ça poserait des problèmes. On peut le faire, d'ailleurs, on peut faire le test. Ça pose des problèmes. Et donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place au cours de l'évolution et qui font que, systématiquement, dans chaque cellule, il y a un des deux chromosomes qui est inactif. Et ça, c'est directement lié à la régulation épigénétique, parce qu'en fait, ça se met en place au cours de la croissance de l'embryon, au cours des divisions cellulaires. Il y a un moment pendant la croissance embryonnaire où chaque cellule va inactiver l'un des deux chromosomes X. Et en fait, une fois que cette inactivation est faite, ça se transmet de cellule à cellule fille. Et ici, vous voyez une photo de chat. C'est un chat qui a le pelage en écailles de tortue. Et en fait, la différence entre les taches brunes et les taches noires, ça résulte du fait que c'est une femelle qui a deux chromosomes X. Et sur l'un des chromosomes X, elle a un gène qui fait que son pelage est noir. Sur l'autre, un gène qui fait que son pelage est brun. Et pendant les divisions, ben, à un moment, il y a une sorte de tirage au hasard qui fait que certaines cellules vont inactiver le chromosome X qui porte le pigment noir, d'autres vont inactiver le chromosome X qui porte le pigment brun, et à partir de ce moment-là, eh bien, toutes les cellules filles, chacune de ces deux types de cellules, ben, elles vont donner du pelage entièrement noir ou du pelage entièrement brun. Et donc on peut observer ça aussi dans d'autres animaux, et c'est pour ça que vous n'avez jamais d'écailles de tortue chez les mâles, chez les chats. Le pelage écaille de tortue, avec les trois couleurs, le blanc, et puis le noir et le brun, ne se trouve que chez les femelles. Parce que les mâles n'ont qu'un chromosome X, donc soit leurs taches sont noires, soit leurs taches sont brunes. Mais ici, donc, c'est un mécanisme réellement de régulation épigénétique, c'est-à-dire que le chromosome X, le même chromosome X, peut soit être actif, soit inactif chez le même individu, dans des groupes de cellules différentes. Et donc, il y a une différence phénotypique ici, entre différentes parties de l'animal, qui sont liées, non pas au fait que le génome est différent dans ces différentes cellules, puisqu'elles ont toutes les mêmes deux chromosomes X, mais au fait que dans certaines cellules, c'est un des chromosomes qui s'exprime, donc s'exprimer au sens de être ouvert à la transcription et permettre la synthèse des protéines, et dans l'autre, c'est dans d'autres groupes de cellules, c'est l'autre chromosome. Alors, comment ça marche? En fait, l'inactivation du chromosome X, c'est quelque chose qui a été extrêmement étudié, notamment il y a une spécialiste en France qui est Edith Hurt, qui a étudié ça pendant des années et qui donne un cours au Collège de France que je vous recommande, qui est beaucoup plus détaillé que celui-ci sur l'épigénétique. Ça fait participer différents mécanismes que je ne vais pas détailler ici, mais notamment, un des mécanismes qui interviennent, c'est la méthylation de l'ADN. Donc celui-ci, je vais l'expliquer. Il y a aussi d'autres mécanismes liés à des ARN tout à fait spéciaux qui emballent le chromosome X et que je ne vais pas du tout entrer dedans parce que c'est très spécifique. Mais un des mécanismes qui est très important pour l'ensemble des phénomènes biologiques en fait, qu'on va observer, épigénétique, c'est la méthylation de l'ADN. Et puis, il y a une autre classe de modifications de la chromatine qui sont très importantes, qui sont des modifications chimiques, non pas de la chaîne d'ADN, comme ici, mais de ces fameuses protéines qui, autour desquelles s'enroule l'ADN, donc ces histones. Donc, on a deux grandes modifications de la chromatine qui vont permettre de faire une régulation. D'une part, l'ADN peut être modifié chimiquement, et d'autre part, les histones peuvent être modifiées chimiquement. Et comme l'ADN plus les histones, c'est ça qui forme la chromatine, ben, on parle de modification chromatinienne de façon collective pour désigner soit des modifications de l'ADN, soit des modifications des histones. Alors les modifications de l'ADN, ici, ces modifications sont assez spécifiques. Elles vont toucher un type de résidu particulier, les cytosines. Et il y a des enzymes spécialisées qui s'appellent méthylases de la cytosine qui vont ajouter un groupe méthyle. Donc vous voyez ici une cytosine, enfin le radical d'une cytosine, le résidu. Et à cette position-ci, vous avez un cycle de carbone avec deux azotes, et puis vous avez un hydrogène. Et il y a des enzymes qui retirent cet hydrogène et qui, à la place, mettent un groupe méthyle. Cette enzyme, vous la voyez ici, donc elle a une structure tridimensionnelle qui fait qu'elle a la capacité spécifiquement de se lier à l'ADN, et en se liant à l'ADN, elle va opérer cette modification, et puis elle va se détacher, elle va aller à un autre endroit de l'ADN, elle va opérer la même modification, puis elle va à un autre endroit, etc. Et elle a une très grande spécificité, parce qu'en fait, elle ne fait cette opération que à des endroits où il y a un C suivi d'un G. Alors, ce qui est aussi assez important, c'est que cette modification-là, sur l'ADN, elle le fait sur les deux brins, parce que si vous avez un endroit de l'ADN, un C, vous avez un groupe phosphate, et puis un G, sur l'autre brin, donc si on lit le brin dans ce sens-là, sur l'autre brin, en face du G, il va y avoir un C, et en face du C, il y aura un G. Donc dans les deux sens, on aura C suivi d'un G, dans ce sens-là, on aura C suivi d'un G, et si on lit dans ce sens-ci aussi, on aura C suivi d'un G. Et ce que fait la méthyltransférase, c'est qu'elle a... Alors il y a un certain type de méthyltransférase qui sont ce qu'on appelle des méthyltransférases de novo, qui vont reconnaître ces cycles-là et qui vont ici ajouter un groupe méthyle à ce C-là et un groupe méthyle à ce C-là. Et donc, les gènes qui codent pour ces méthyltransférases s'appellent DNMT3. Il y a DNMT3A, DNMT3-2. Il y en a deux chez l'humain. C'est deux gènes qui codent pour des protéines qui font la même chose, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent des endroits spécifiques de l'ADN et elles ajoutent un groupe méthyle. Et dès le moment où elles font ça, en fait, il va y avoir des conséquences sur le fonctionnement du chromosome. Et puis, il y a une autre méthylase de l'ADN qui, elle, opère durant la division cellulaire. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai mon ADN qui est méthylé sur chacun des deux brins, au moment de la division cellulaire, ben, cet ADN, en fait, il va se séparer. La polymérase de l'ADN, elle va copier une nouvelle chaîne d'ADN sur base de ce modèle-ci. Ce que fait la polymérase, c'est chaque fois qu'elle voit un A, elle met un T en face. Si elle voit un T, elle met un A en face. Puis si elle met un T, là, on va mettre un C en face du G, un G en face du C. Elle polymérise une nouvelle chaîne d'ADN. Et quand elle le fait avec de l'ADN, avec des résidus, des nucléotides qui sont dans la cellule et qui ne sont pas méthylés. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre en face de ce G-ci, elle va mettre un C. En face de ce C-ci, elle va mettre un G. Et celui-ci ne sera pas méthylé. Par contre, de l'autre côté, ici, ben, j'avais mon C et G, qui étaient méthylés aussi. Et de même, la polymérase de l'ADN, elle va synthétiser une nouvelle chaîne d'ADN sur base du modèle de celle-ci, mais elle ne sera pas méthylée non plus. Et là, il y a d'autres molécules qui sont spécialisées, c'est une autre ADN méthylase, qui a la capacité, quand elle se rencontre de ce genre de situation-là, de faire ce qu'on appelle la maintenance. C'est une méthylase de l'ADN de maintenance. Elle reconnaît les endroits où il y a une hémiméthylation et elle méthyle de l'autre côté. Et donc c'est quelque chose d'assez fascinant, en fait, que ces deux protéines existent chez tous les mammifères. En fait, on trouve ces deux types de protéines, des méthylases qui vont faire de la méthylation de novo en méthylant sur les deux brins. Et puis, il y a un problème qui se pose au moment de la division cellulaire, puisqu'on perd l'information sur un des deux brins. Il y a une autre protéine spécialisée qui fait la même réaction, mais spécifiquement aux endroits où l'ADN n'est méthylé que d'un côté, il rajoute le groupe méthyle manquant. Du point de vue évolutif, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Alors ça a des conséquences aussi, c'est qu'une fois que l'ADN est méthylé, en fait, il est inactif. Et une des conséquences de ça, on trouve énormément de CPG dans les régions inactives des chromosomes, notamment dans les centromères et dans les télomères. Et donc c'est un des mécanismes qui permettent d'expliquer l'inactivation. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, cette méthylation facilite le superenroulement et la formation d'hétérochromatine. Ça facilite la compaction des chromosomes. Alors ce que vous voyez ici, c'est des séquences d'ADN. Alors on ne va pas lire toutes les séquences, elles sont en tout petit, là, ATGCC, ATTC, etc. Mais sur l'une des figures, ils ont marqué en rouge les successions de C suivies d'un G, les CPG, et sur l'autre, les successions de G suivies d'un C. Donc a priori, la probabilité d'observer un C suivi d'un G ou un G suivi d'un C, si on avait fait une séquence aléatoire, ce serait la même. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des régions ici, il y a une région, où en fait, il y a un évitement du CPG. Alors que le GPC n'est pas du tout évité. Donc ce n'est pas une question de différence de contenu en C ou en G, c'est vraiment ce dinucléotide-là qui est évité. Et il est évité d'une part parce que, au cours de l'évolution, ces CPG ont tendance à muter et à donner un T suivi d'un G. Et donc, au fil de l'évolution, ils disparaissent des génomes. Mais aussi, on pense qu'il y a une raison fonctionnelle à cet évitement, parce qu'on ne l'observe pas dans tous les génomes. On observe ça, cet appauvrissement en CPG dans le génome humain. Et en fait, une des raisons, c'est que s'il y avait trop de CPG ici, ce gène serait inactif. Et donc, généralement, dans les régions actives du génome, on a une très très forte baisse du taux de CPG. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce mécanisme de régulation, on peut même seulement en regardant la séquence d'un génome, aller prédire quelles sont les régions du génome qui vont vraisemblablement être actives ou inactives. Alors il y a certaines régions qui font exception, c'est ce qu'on appelle des îlots CPG, c'est des endroits où il y a un taux de CPG, donc CPG c'est C suivi d'un G. Il y a un taux de CPG qui est plus haut que dans le reste du génome et qui néanmoins ne sont pas inactives. Et ces régions-là, en fait, c'est très souvent dans les promoteurs des gènes, c'est-à-dire c'est juste à l'endroit où commence la transcription. Donc ici, vous voyez une molécule d'ADN. Chaque fois que vous avez un petit bâton avec un rond, c'est un CPG. Et quand ils sont noirs, c'est qu'ils sont méthylés. Quand ils sont blancs, c'est qu'ils ne sont pas méthylés. Et en fait, dans ces îlots, il y a un mécanisme qui fait que la méthylation ne s'opère pas. Et donc, ces régions-là sont ouvertes, elles ne sont pas compactées, elles ne sont pas sous forme d'hétérochromatine, et la transcription peut avoir lieu. Et ce qu'on représente en vert ici, c'est le démarrage de la transcription, et puis la flèche, c'est l'orientation de la transcription. Donc ici, on a un gène, l'endroit où commence un gène, commence une transcription qui va ensuite donner lieu à une traduction qui donnera une protéine. Alors, à quoi ça sert cette méthylation de CPG? D'une part, comme je vous l'ai dit, ça sert à l'inactivation du chromosome X. Donc il est très très fortement couvert de méthylation. D'autre part, ça sert aussi à réprimer les éléments transposables. Et je vais vous expliquer ce que c'est parce qu'on va revenir là-dessus. Les éléments transposables, en fait, si on observe le génome humain, on a séquencé le génome humain, on se constate que 45% du génome humain, c'est des régions répétées. C'est-à-dire qu'on a une séquence, et puis un peu plus loin, on a une séquence qui lui ressemble furieusement, à 90%, puis un peu plus loin, à 90%, une autre, etc. Donc, c'est des régions dont on se demande si elles sont fonctionnelles ou pas. Au départ, on se demandait si elles étaient fonctionnelles. On a aussi parlé d'ADN poubelle, l'ADN qui n'était pas utilisé. Et on a mieux compris en quoi elles consistaient, en tout cas certaines de ces séquences répétées. Et notamment, il y a une séquence qui est la plus fréquente là-dedans, qu'on appelle séquence ALU. Et cette séquence-là, il y a 1 million de copies de la même séquence dans le génome, avec des petites variations d'une copie à l'autre. Donc, c'est quelque chose qui est répandu dans l'entièreté du génome. Et cette séquence-là, en fait, elle couvre il y a ce million de copies de la même séquence qui font chacune quelques centaines de paires de bases. Ça fait en tout 10% du génome. Et ces 10% du génome, en fait, ils proviennent d'une infection virale ancestrale. C'est-à-dire qu'il existe des virus qui sont ce qu'on appelle des rétrovirus. Vous en connaissez un qui est très célèbre, c'est le sida, le virus du sida. Mais en fait, ce virus-là, son matériel génétique, c'est de l'ARN. Et il existe des protéines qui s'appellent les reverse transcriptases qui permettent, une fois que le virus s'est inséré dans une cellule, ils lui permettent de synthétiser de l'ADN sur base du modèle de l'ARN. Donc c'est l'inverse du chemin habituel, puisque d'habitude c'est à partir de l'ADN qu'on fait de l'ARN. Et donc, il existe une protéine qui s'appelle la reverse transcriptase, qui fait inverse, à partir d'un ARN, elle fait un ADN. Et ensuite, cet ADN s'insère dans le génome qui l'infecte. Donc, c'est un mécanisme assez général des virus à ARN. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a très très longtemps, au moment où on était chez les ancêtres communs de tous les mammifères, il y a des dizaines de millions d'années, les mammifères ancestraux ont été envahis par un virus qui s'est inséré dans leur génome. Et puis, ce virus-là, il avait une autre propriété que sa propriété virale, il avait une propriété de transposon. C'est-à-dire que certains virus, pour passer d'une cellule à une autre, ben, ils sont dans une cellule, et puis à un moment, ils se multiplient, et puis ils s'encapsulent dans une protéine, et puis ils sortent et ils vont infecter d'autres cellules. Et puis, certains autres virus, quand ils sont insérés dans un génome, ils peuvent sauter à un autre endroit du génome et faire plusieurs copies dans le même génome. Et les séquences ALU, on pense qu'elles résultent de l'évolution d'un virus qui, durant l'évolution des mammifères, a commencé à envahir le génome et qui aujourd'hui occupe 10% du génome de l'humain. Alors évidemment, ces séquences-là, est-ce qu'elles sont encore actives? Oui, elles peuvent l'être, elles sont partiellement actives, c'est-à-dire qu'on peut, chez la souris notamment, et chez d'autres organismes, et chez les plantes, ça a été démontré par Barbara McClintock, chez les plantes, en fait on peut démontrer qu'il y a des séquences comme ça qui, d'une division cellulaire à l'autre, peuvent changer d'endroit dans le génome. Donc si, évidemment, ces séquences sont actives, ça provoque des gros problèmes. Ça peut provoquer des gros problèmes puisqu'elles peuvent modifier le génome, provoquer des mutations aux endroits où elles vont atterrir. Et ce qu'on observe, ce qu'on sait, c'est que la méthylation de l'ADN, en fait, affecte particulièrement les séquences ALU. Les séquences ALU sont très très fortement méthylées et que cette méthylation, on pense qu'elle joue un rôle d'empêcher ces séquences ALU de continuer à se propager. Donc, ce qu'on pense, c'est que la régulation épigénétique via cette méthylation de l'ADN, à un moment dans l'évolution des animaux, a été sélectionnée parce qu'elle freinait, elle jugulait cette expansion de ce virus qui envahissait le génome. Alors ici, vous voyez, ce que vous voyez, c'est un morceau de génome. Et ce morceau de génome, là, vous avez le dessin du chromosome, et on fait un zoom sur une toute petite partie qui est la partie rouge ici. Et dans cette partie-là, on peut marquer en bleu les gènes. Et là, j'ai choisi les gènes Hox qui sont impliqués dans le développement, dans l'identité segmentaire, dans le développement des organes, la différenciation des organes. Des séquences ALU, hein, sur cette piste-ci, vous voyez, j'ai marqué toutes les séquences répétitives et vous voyez des tas de séquences. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des régions où il y a très très peu de séquences ALU. Parce qu'en fait, ces régions-là, elles sont très cruciales en fait, pour le développement de l'organisme. Et ce qu'on pense, c'est que si des séquences ALU atterrissent là-dedans, ça perturbera vraiment le développement de base du plan de l'organisme. Et que les cas où une séquence ALU s'est retrouvée dans ce complexe-là, bah, les individus en question, ils n'ont pas pu se développer. Donc, ils n'ont pas pu transmettre à leurs descendants cette modification. Donc, il y a eu une contre-sélection de l'atterrissage de séquences ALU dans le complexe Hox. Ce que vous voyez ici aussi, c'est un marquage sur les chromosomes. Vous voyez le karyotype, hein, comme je vous ai déjà montré. En rouge, vous avez tous les chromosomes. Et on a marqué en vert ces séquences répétitives, les séquences ALU. Et ce qu'on voit, c'est que selon les chromosomes, on va en avoir une fréquence plus ou moins élevée. Donc jusqu'ici, je vous ai parlé des modifications de l'ADN même. La séquence de l'ADN, la double hélice, on va méthyler l'ADN lui-même. Et maintenant, je vais vous parler de l'autre famille de modifications chromatiniennes, qui sont des modifications non pas de la chaîne d'ADN elle-même, mais de ces fameuses protéines, les histones, autour desquelles s'enroule l'ADN. Alors c'est intéressant parce que ces protéines, au départ, on pensait que c'était simplement une sorte de support qui permet la compaction, et on s'est rendu compte pendant les années 90, et puis ça s'est confirmé avec les méthodes à échelle génomique dans les années 2000, qu'en fait elles sont extrêmement importantes comme mécanisme de régulation épigénétique et pour la stabilisation des choix de différenciation. Une histone, c'est une protéine, et il y a plusieurs types d'histones. Il y a une histone qu'on appelle histone 2, histone 3, histone 4, de façon assez poétique, et il y en a une qui s'appelle histone 1 aussi. Et ces histones-là, en fait, elles ont la capacité de former un complexe. C'est-à-dire que plusieurs protéines de types différents s'assemblent, et elles forment une structure qui est assez stable. Et ici, on voit sur cette figure-ci, en fait, on voit les histones ici au centre. Alors si je fais une coloration par chaîne, je peux faire ça, coloration par chaîne, là on voit que j'ai une histone qui est marquée en bleu foncé, une histone qui est marquée en bleu clair, une en vert clair, j'en ai qui sont marquées ici de différentes couleurs, en orange, et donc on ne le voit pas très très bien ici si on n'est pas familier avec les structures des protéines, Mais il y a oui protéines qui sont globulaires, qui forment une petite boule comme ça, et qui forment un complexe, qui forment un ensemble, une structure assez compacte. Et c'est cette structure-là autour de laquelle l'ADN s'enroule. Donc l'histone, c'est une protéine. Et pour former un nucléosome, il y a 8 histones de 4 types différents. Et puis il y a l'ADN qui s'enroule, qui fait 2 tours autour de ce complexe de 8 histones. Et ici, on va ressortir, par exemple à cet endroit-ci, voilà. Ici, on va sortir une queue d'histone. C'est l'extrémité d'une histone. Une histone, c'est une protéine, donc c'est un chapelet d'acides aminés. C'est un assemblage d'acides aminés différents qui ensuite forment des structures. Dans ce cas-là, c'est des hélices, ils forment des hélices. Et puis, il y a une queue qui n'est pas structurée. Elle flotte comme ça dans le cytoplasme et dans le nucléoplasme. Elle flotte dans le noyau, à l'extérieur. Elle sort du nucléosome. Et comme elle sort, certaines enzymes peuvent y accéder. Et il y a des protéines, une autre protéine, qui est celle-ci, qui est une histone méthyltransférase, donc cette protéine-ci. Donc c'est une protéine qui a la capacité de reconnaître une queue d'histone et puis d'y faire une réaction chimique. Cette enzyme, ce qu'elle a la capacité de faire, c'est à partir d'un des résidus d'une histone, une lysine. Donc ça, c'est un acide aminé, la lysine. Les protéines sont faites de 20 types d'acides aminés différents. Et dans les queues d'histone, il y a des lysines à certains endroits particuliers. À la 4e position, à la 14e position, à la 27e position, il y a des lysines. Et ces lysines-là, il va leur arriver une chose particulière, c'est qu'il y a des enzymes spécialisées qui font une seule chose dans la vie. Elles reconnaissent une queue d'histone, elles se lient à cette queue d'histone, et puis elles vont catalyser une réaction qui va avoir pour effet de remplacer sur une lysine particulière, par exemple en 4e position, un groupe hydrogène par un groupe de méthyle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un H qui va être remplacé par un CH3. Et donc on va dire que cette lysine est méthylée, ou monométhylée, parce qu'on a ajouté un groupe méthyle. Et puis ensuite, cette méthylase des histones, elle peut ajouter aussi un deuxième groupe méthyle. Donc elle va remplacer un autre azote, elle va remplacer un autre hydrogène par un deuxième groupe méthyle. Et donc on aura ici une histone diméthylée. Et donc on va représenter ça dans les diapos qui suivent par ME1 quand il y a un seul groupe méthyle, ME2 quand il y a deux groupes méthyle, et puis la troisième possibilité, une fois que l'azote il est à 3 liaisons avec des hydrogènes, ben on lui enlève son troisième hydrogène, on met un groupe méthyle à la place, et donc on a un atome d'azote avec 3 groupes méthyle, et donc on se retrouve avec 4 possibilités pour cette lysine, soit elle n'est pas méthylée, soit elle est méthylée une fois, deux fois ou trois fois. Donc ça a l'air extrêmement précis comme mécanisme, c'est surprenant en fait que des enzymes soient aussi spécialisées que ça, d'aller reconnaître une position particulière de la queue d'une protéine, l'histone, et puis de changer un hydrogène par un groupe méthyle. C'est extrêmement précis comme mécanisme. Alors il y a d'autres, c'est pas tout, il y a d'autres enzymes qui s'appellent acétyltransférases, et comme le nom l'indique, au lieu de transférer un groupe méthyle, transfère un groupe acétyle. Alors, quelle est la différence entre l'acétyle et le méthyle? C'est que le méthyle, c'est un groupe avec un carbone et 3 hydrogènes. L'acétyle, il y a 2 carbones et puis 2 hydrogènes autour. Donc, c'est une différence chimique. Et donc, on appelle histone acétyltransférase ces enzymes qui ont cette capacité spécifiquement de remplacer un hydrogène par un acétyle. Et puis, il y a d'autres enzymes qui font la chose inverse, c'est-à-dire qu'elles enlèvent le groupe acétyle. Et ces protéines-là, les histones déacétylases, en fait, on va les utiliser, par exemple, on va en reparler quand on parlera de thérapie épigénétique. Parce que c'est un des mécanismes, notamment, par lesquels on peut essayer, aujourd'hui, de réparer des problèmes qui sont liés à des modifications épigénétiques et qui suscitent des maladies. Donc HDAC, retenez bien, HDAC, donc c'est les histones déacétylases, je reviendrai dessus, mais donc, on a vraiment ces deux enzymes qui font les opérations inverses. À partir d'une histone, sur une lysine particulière, on va y ajouter un groupe acétyle. Ou bien, une fois qu'on a une histone qui est acétylée, on peut lui enlever son acétyle. Alors, je vous ai dit que pour la méthylation de l'ADN, de la chaîne d'ADN, je vous ai dit que pour ce mécanisme-là de modification chromatinienne, on connaissait très très bien les protéines qui, d'une part, font la méthylation des novos, et d'autre part, les mécanismes qui permettent à chaque division cellulaire de transmettre de la cellule mère à chacune des cellules filles le profil complet de méthylation. C'est-à-dire que chacun des deux chromosomes qui qui va résulter d'une réplication, il va être méthylé aux mêmes endroits. Et on pense pour l'ADN que c'est un des mécanismes de la stabilité des modifications épigénétiques au cours des divisions cellulaires, des divisions mitotiques. Donc pendant la croissance de l'organisme, une cellule va donner deux cellules, puis quatre, puis huit, et ça participe à la formation des tissus. Et au fil de ces divisions cellulaires, une des grandes questions, c'est comment se fait la stabilité des différenciations. Certains tissus vont donner des neurones, d'autres cellules vont donner des cellules de foie, d'autres cellules vont faire des lymphoblastes qui vont donner des lymphocytes qui vont circuler dans le sang. Donc chacun de ces types cellulaires est progressivement différencié par les mécanismes que je vous avais dit la fois passée, les facteurs transcriptionnels. Mais une fois que les facteurs transcriptionnels ont engagé une cellule dans une voie de différenciation, on pense que ces mécanismes-là de masquage de certaines régions inactives et donc d'inactivation par la méthylation de l'ADN et ensuite la transmission de ces modifications d'une cellule à ses cellules filles, c'est ça qui assure la stabilité des voies de différenciation cellulaire. Donc ça c'est très bien, et donc on se dit, puisqu'on a d'autres types de modifications de la chromatine qui sont non plus des méthylations de l'ADN mais des méthylations des histones et des acétylations des histones, on se dit que ça doit aussi se transmettre de cellule mère en cellule fille, et donc on pense effectivement que ces modifications des histones se transmettent, mais aujourd'hui on ne connaît pas bien les mécanismes qui permettent de le faire. C'est quelque chose sur lequel c'est encore un sujet de recherche aujourd'hui. Et ce n'est pas évident, parce qu'en fait, ici pour l'ADN, il y a quelque chose d'assez facile. Enfin, d'assez facile. On a découvert les molécules qu'ils font, donc on sait que c'est comme cela que ça marche. Mais conceptuellement, c'est assez facile de se dire qu'au moment où l'ADN se sépare, hein, où les deux brins se séparent en deux brins, nous savons que la séquence, la succession des nucléotides, elle est... L'information est là en double, puisqu'il y a une complémentarité entre chaque nucléotide qu'il y a ici et chaque nucléotide qu'il y a sur l'autre brin. Si je connais la séquence d'un brin, je connais la séquence de l'autre. Et par ailleurs, si un des deux brins est méthylé, on voit qu'il y a une enzyme qui s'appelle la DNMT1 qui va reconnaître ces sites-là et qui va ajouter des groupes méthyles là où il y a de l'hémiméthylation. Donc, que ce soit pour la séquence de l'ADN ou pour les patterns de méthylation, ce qu'on appelle les marques épigénétiques, une seule chaîne contient suffisamment d'informations pour pouvoir la reproduire sur la seconde chaîne. Mais quand il s'agit de protéines qui sont liées à l'ADN, si j'ai mon ADN et qui fait deux tours autour d'une histone, donc maintenant, si je représente mon histone ici, donc j'ai 8 protéines qui sont les histones. Et puis, une de ces histones, elle a une marque particulière, elle est marquée. Donc, les biologistes utilisent le mot marquage, les marques chromatiniennes. Il y a une modification du point de vue chimique, c'est une modification qui est qu'on lui a ajouté par exemple un groupe méthyl, ou deux groupes méthyl, ou voire trois groupes méthyl. Voilà. Donc ici, j'ai trois groupes méthyl. Au moment où la réplication se passe, en fait, pour que la polymérase de l'ADN, la protéine qui, à partir d'une seule molécule d'ADN, va synthétiser deux molécules d'ADN, donc tout ceci est en double brin, mais je ne le dessine pas parce que c'est déjà assez cochon comme ça. Mais donc, cette polymérase ici, l'enzyme qui synthétise deux molécules d'ADN à partir d'une seule molécule d'ADN, c'est l'ADN polymérase, pour qu'elle puisse faire son travail, elle doit écarter les histones. Donc les histones sont séparées de l'ADN. Et donc on ne sait pas comment après elles reviennent au bon endroit. Et a fortiori, même si, imaginons qu'elles restent à proximité et que immédiatement après le passage de l'ARN polymérase se reforme ici un nucléosome avec les 8 protéines qui étaient ici, imaginons-le, mais c'est même pas sûr que ce soit le cas, mais même si on imagine ça, on n'a aucune idée de ce qui permettra à l'autre copie de l'ADN de s'enrouler autour d'un histone et que l'information qu'il y a ici, sous forme de méthylation, de modification particulière, de méthylation, d'acétylation, comment cette information est-elle reproduite sur l'autre copie de l'ADN, on n'en a aucune idée aujourd'hui. Il est assez vraisemblable qu'on en aura des idées dans quelques années parce que c'est un sujet de recherche extrêmement actif. Alors, en 2000, et puis enfin, il y a eu plusieurs papiers en 2000, 2001, 2004, 2007, il y a eu tout un engouement pour ces modifications des histones et pour les modifications de l'ADN. Et il y a plusieurs auteurs qui ont commencé à dire, tiens, mais somme toute, il faudrait qu'on essaye de décrypter le langage de ces modifications d'histones. Donc ça, c'est un premier papier. Il y en a un autre qui parle du code des histones. Et quelle était l'idée, en fait? L'idée, c'est que, donc, sur cette figure, il vous représente la chromatine qui peut exister soit sous forme déroulée, hein, soit sous forme déroulée, c'est le chromatine, soit sous forme un peu plus compacte, l'hétérochromatine. Et le rôle des histones est très important pour passer d'une forme à l'autre, et notamment l'acétylation. Ben, on pense que l'acétylation, elle intervient dans l'ouverture de la chromatine. Enfin, on a de bonnes raisons de penser, on a des indications assez bonnes du point de vue à la fois biochimique et puis du point de vue de la fonction biologique pour dire que aux endroits où les histones sont acétylées, ça relâche la chromatine. Elle est sous une forme toujours chromatinienne avec toujours des histones, mais hein, elle est moins compacte qu'aux endroits où il n'y a pas d'acétylation. Et donc on associe du point de vue statistique, et puis on comprend aussi du point de vue biochimique comment ça se passe, on associe ces marques-ci qui sont représentées sur cette figure-ci par un petit drapeau vert. Ben, tous les endroits où il y a un drapeau vert, c'est des endroits où on sait qu'il y a des enzymes qui vont acétyler un résidu de la protéine. Donc ceci, c'est la séquence d'une histone. L'histone H3, je vous ai dit qu'il y en avait 4, hein, H2A, H2B, H3 et H4. Et donc, par exemple, sur l'histone H3, ben, il est bien connu qu'on a une lysine en 4e position, le K c'est une lysine, on a une lysine en 9e position, une en 14e, une en 18e, une en 23e, une en 27e, et chacune de ces lysines peut être éventuellement acétylée. Mais certaines peuvent aussi être méthylées. Et donc, si elles sont méthylées, ça va inactiver, si elles sont acétylées, ça va activer la chromatine. Elle va être plus déroulée ou plus compacte. Et donc, ceci c'est un papier un tout petit peu plus récent, de 2004, où ils ont fait une revue, Peterson, et où ils montrent justement pour chacune de ces quatre histones dont je vous ai parlé, ça c'est le début de la séquence de l'histone, et donc ils montrent les endroits où il y a des acétylations, des méthylations, des phosphorylations aussi, différents types de modifications. Et puis, ils associent à chacune de ces types de phosphorylation une activité particulière, une conséquence, en fait, de ce type de modification. Donc, si on a des acétylations, ben, généralement... Donc, ici, vous avez le nom de l'histone, H2A, H2B, enfin, je n'ai pas de H2A, H2B, H3, H4. Et ensuite, vous avez le résidu. K, c'est des lysines. En général, c'est sur des lysines qu'on va avoir des modifications. Je suis obligé de vous... expliquer comment ça se lit. On ne va pas tous les lire, c'est pour vous donner la photo d'ensemble. Hein. Mais après, je vais en utiliser certaines d'entre elles qui vont revenir de façon récurrente. En particulier, par exemple, H3K27 acétylé ou H3K4 méthylé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire H3K4ME1? Ça veut dire que sur la troisième histone, chacune des quatre histones, elle est là en deux copies. Hein. Dans un complexe comme ça, il y a 8 protéines, il y a 2 copies de chacune des histones. Bah, sur la troisième histone, à la 4e position, il y a une lysine et elle peut être méthylée. Mais elle peut aussi être diméthylée ou triméthylée. Par contre, à la 9e position, il y a une histone qui peut être soit méthylée, triméthylée, soit acétylée. Et ici, celle-là est intéressante, H3K9AC, ça veut dire que cette même lysine, si elle est acétylée, ça va être une région active. Si elle est méthylée, ça va être une région inactive. Donc on a un nouveau signal de régulation ici par rapport à ceux dont je vous ai parlé dans la séance précédente. C'est un signal qui repose sur les modifications des histones. Et ce que ces auteurs appellent le code des histones, c'est justement toute cette combinaison de modifications et ce qui leur est associé. Donc j'appelle ça un code, dans le sens où il y a une association entre une modification chimique particulière et une fonction particulière. Et en fait, ça devient surtout des révélateurs de l'état d'activation des gènes. Parce que si, alors, sur cette figure-ci, vous avez un schéma simplifié, mais où l'axe horizontal représente le génome, Et ce qui est marqué ici en noir, c'est des gènes. Donc ici, j'ai un gène, un autre gène, un troisième gène, un quatrième gène. Là, j'ai un morceau de gène qui est un peu coupé, parce qu'on a fait un zoom, voilà, on a coupé sur une région particulière du génome. Et dans cette région particulière, il y a des nouvelles méthodes qui ont été inventées au début des années 2000 et qui permettent d'aller marquer ou d'aller détecter, plus précisément, d'aller détecter, soit par des méthodes de fluorescence, soit par des méthodes de séquençage. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des méthodes qui permettent de détecter la présence de chacune des modifications d'histones. Et donc, on peut parcourir le génome, et ici, par exemple, vous voyez deux expériences différentes, l'une avec une des méthodes qui a été développée en 2002, qui s'appelle ChIP-ChIP, ça veut dire Chromatin Immunoprecipitation, et puis ChIP pour les puces fluorescentes. Et puis ça, c'est une autre méthode qui a été développée en 2007, qui s'appelle ChIP-Seq. Et en fait, ces deux méthodes, on peut les appliquer exactement sur les mêmes échantillons et on voit qu'elles donnent les mêmes réponses. Donc ça, c'est intéressant en biologie, qu'on a deux méthodes différentes qui vous montrent des résultats cohérents. Et ce qu'elles montrent toutes les deux, c'est que à cet endroit-ci, il y a des pics, ce qu'on appelle des pics. Hein. On voit bien que la hauteur représente l'intensité de la méthylation à cet endroit-là, ou sur une population cellulaire, ça représente la proportion des cellules où on trouve de la méthylation. Et là, vous voyez qu'il y a une région de méthylation avec des pics, et puis ici une autre région. Et le ChIP-Seq a une meilleure résolution que le ChIP-ChIP. Donc aujourd'hui, tout le monde travaille avec du ChIP-Seq plutôt que du ChIP-ChIP, parce que ça permet de caractériser de manière beaucoup plus fine les positions des nucléosomes où il y a une méthylation particulière. Et ce qu'on voit, c'est que certaines de ces régions, par exemple ici, il y a une modification, H3K36ME3. Ben dans mon petit code des histones ici, H3K36ME3, activation, et on voit que c'est sur le corps des gènes activement transcrits. Et ici, vous voyez un vrai résultat. Et en fait, sur ce vrai résultat, on voit effectivement que tout le long de ce gène-ci, il y a deux gènes côte à côte, en fait, mais le long de ces deux gènes-ci, vous avez une sorte de, alors on ne peut pas dire un pic, hein, c'est une sorte de chaîne montagneuse, l'Himalaya, mais vous avez une augmentation de la concentration de cette marque-là. Ceci, c'est la polymérase de l'ARN. Ça, c'est intéressant de regarder son profil aussi. Donc ça, c'est la machine qui permet de synthétiser de l'ARN à partir de l'ADN. Enfin, la machine, pardon. C'est le complexe enzymatique qui permet de synthétiser l'ARN à partir de l'ADN. Donc c'est la transcription. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que on peut la détecter tout le long du corps du gène, ça c'est bien, mais on voit qu'il y a un pic très très fort ici, au début du gène. Et ça c'est caractéristique en fait, la polymérase passe beaucoup de temps sur le starting block, entre guillemets. Elle s'assemble au site d'initiation de la transcription, et puis elle y passe pas mal de temps, et ça on peut l'observer seulement parce qu'on dispose de ces technologies aujourd'hui. Et puis à un moment, des facteurs transcriptionnels vont l'activer, lui donner un signal de démarrage, et elle va commencer la transcription. Et donc, ce qu'on mesure ici avec la hauteur, somme toute dans ce cas-là, c'est la proportion de temps que cette enzyme, ce complexe enzymatique, passe soit au début, soit sur le corps du gène. Donc, c'est des méthodes extrêmement précises, et il y a plusieurs projets internationaux qui ont été lancés pour appliquer ces méthodes-là à tous les tissus humains, ou à un grand nombre de tissus humains. Et donc, par exemple, il y a un projet qui s'appelle ENCODE, qui est un projet européen, qui a été financé donc mis en place par un tas de laboratoires européens, qui visait à caractériser le génome humain et à caractériser la fonction de chaque région du génome humain. Le projet a été terminé, c'est un projet qui a tourné pendant les années 2000. Et notamment, dans le cadre de ce projet-là, ils ont caractérisé les marques ce qu'on appelle les marques épigénétiques, ou les modifications épigénétiques, sur l'ensemble du génome, dans un tas de lignées cellulaires. C'est quoi des lignées cellulaires? C'est des cellules qu'on a extraites d'un corps humain et puis qu'on met en culture sur des boîtes de pétri, elles peuvent se reproduire. C'est des cellules qui sont à moitié différenciées, un peu dédifférenciées, parce que normalement un neurone ne se reproduit plus, il ne multiplie plus, mais si on les met sur des milieux de culture, on peut les amener à continuer à se reproduire, mais néanmoins ils conservent des propriétés neuronales. Et donc dans des cellules de type foie ou des cellules de type neurone ou dans des cellules de type, dans des lignées cellulaires qui découlent de cancers aussi, c'est-à-dire qu'on prélève des cancers et un cancer, c'est des cellules qui n'arrêtent pas de se multiplier. Donc ça, c'est facile de les mettre en culture cellulaire, mais donc on a différents types de lignées cellulaires qui sont maintenues depuis des dizaines d'années et qu'on utilise en laboratoire et qui sont des lignées types, en fait, qu'on a énormément étudiées. Et donc ces lignées-là, On les connaît bien parce qu'on a fait de la génétique sur ces lignées, on a étudié l'effet de différents facteurs sur ces lignées. C'est des lignées qui viennent de personnes qui sont sans doute mortes depuis des dizaines d'années. Mais on ne connaît pas le nom de la personne, mais en tout cas qu'on utilise en laboratoire et que tous les laboratoires peuvent obtenir et analyser les mêmes lignées cellulaires. Donc ces lignées-là, les principales lignées que les biologistes utilisent, eh bien, dans le projet ENCODE, ils ont caractérisé d'une part tout le transcriptome, c'est-à-dire ils ont regardé quels sont tous les gènes qui s'expriment et ils ont quantifié le niveau de transcription de chacun des 25 000 gènes du génome. Et d'autre part, l'épigénome, c'est-à-dire qu'ils ont caractérisé les positions où il y a des méthylations des histones, des acétylations des histones, la méthylation de l'ADN, et ils ont aussi marqué tous les sites de liaison de différents facteurs transcriptionnels. Donc on a un jeu de données énorme produit par ce projet international. Et puis il y a un autre projet qui s'appelle Roadmap, qui est un projet américain, où ils ont étudié, eux, carrément, l'épigénome, donc l'ensemble de tous les endroits où il y a des modifications, soit de l'ADN, soit des histones, et le transcriptome, donc le niveau d'expression de tous les gènes, dans différents tissus, mais des tissus, donc là, ce n'est plus des lignées cellulaires, c'est vraiment des biopsies, des biopsies, c'est plutôt sur des personnes qui sont décédées, mais qui cèdent leur corps à la science, et donc on prélève des échantillons des différents tissus juste après la mort, et puis on caractérise le profil d'expression de tous les gènes et le profil de liaison des facteurs transcriptionnels et les modifications chromatiniennes. Et il y a encore un autre projet international qui s'appelle GTEx, où on a caractérisé le profil d'expression de tous les gènes dans 53 tissus différents. Et donc maintenant, on dispose de ces catalogues à échelle génomique. Alors je vais vous montrer un exemple ici de détection des marques d'histone par la technologie ChIP-seq. Vous voyez deux types de gènes. Tiens, j'aurais dû placer cette diapo-là avant, mais ce n'est pas grave. Donc, un exemple ici qui vous montre que ces profils, même si c'est des expériences où qui sont à échelle génomique, donc il y a sans doute des endroits où il y a des erreurs, où il y a différents phénomènes qui se passent. Donc, ça demande quand même pas mal d'expertise d'analyser ces résultats-là. Mais ce qu'on vous montre sur cette figure-ci, c'est d'une part, vous avez une région du génome qui est active, et d'autre part un autre gène qui est inactif. Donc STAT4 dans les tissus qui ont été étudiés est actif, et puis le gène MYO1B, il est inactif dans ces tissus-là. Il est actif dans d'autres tissus. Donc ils ont choisi intentionnellement ces deux gènes-là, et ce qu'ils vous montrent, c'est que si on regarde l'endroit où on trouve des marques H3, K4, ME3, donc les modifications de triméthylation de la quatrième lysine, de la troisième histone de ces nucléosomes, eh bien, ces endroits-là, on voit qu'il y en a un petit peu en amont des gènes STAT1 et en aval des gènes STAT4. Mais vous en avez juste en amont du gène STAT1 et vous voyez aussi qu'il y en a en amont du gène STAT4. La petite flèche bleue vous indique que ces gènes sont transcrits dans ce sens-là pour vous. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ces marques-là, en fait, on sait qu'elles sont associées à des promoteurs actifs ou à ce qu'on appelle des enhancers, c'est-à-dire des régions qui participent au déclenchement de la transcription. Et de fait, c'est parfaitement cohérent. On voit que ce gène est actif dans ces tissus-là et on trouve ici des méthylations très importantes du promoteur de ces gènes. Et puis on voit ici la modification chromatinienne H3K27ME1 qui est étalée le long du génome. Et puis on voit d'autres modifications comme celle-ci. Je vous avais dit H3K36ME3. On le trouve sur le corps des gènes qui sont en cours de transcription. Et de fait, ici, on voit que tout le long du gène STAT1, on a ces marques-là. H3K36ME3, H3K20ME1, etc. Par contre, sur des gènes inactifs, on ne trouve pas les modifications H3 le long de ce gène-là. Hein, sur le corps du gène MYOB1, on ne trouve pas la modification H3K36ME3. Au promoteur de ce gène, on ne trouve pas de marque de méthylation. Et donc, par contre, on trouve d'autres modifications qui sont caractéristiques des gènes inactifs. C'est la triméthylation, la diméthylation de la 27e lysine du 3e histone. Et donc, vous imaginez bien que maintenant, dès le moment où on dispose pour l'ensemble d'un tissu, pour un tissu donné, de l'ensemble de toutes ces modifications-là, tous ces profils-là, sur l'ensemble de tout le génome, on peut savoir quels sont les gènes qui sont transcrits et quels sont les gènes qui ne sont pas transcrits. Et on peut aussi savoir quels sont les endroits où il y a des éléments de régulation. Donc ça nous donne vraiment une vision extrêmement riche de tout ce qui se passe dans un génome, enfin tout ce qui se passe, non, de la régulation d'un génome, c'est pas tout ce qui se passe, hein, mais de la régulation d'un génome dans différents tissus, à différents moments du développement aussi on peut le faire, et donc ça nous permet de comprendre les mécanismes de régulation. Mais au lieu de regarder un seul gène, comme je vous avais montré la fois passée, je vous ai dit, ah, on s'intéresse au gène bicoïde. Et donc le gène bicoïde active tel gène et puis tel autre gène. Ici, on regarde tous les gènes à la fois. On regarde tous les gènes à la fois et on peut savoir dans un tissu donné lesquels sont en cours de transcription, lesquels sont inactifs du point de vue transcriptionnel. Et on peut savoir aussi quelles sont les régions du génome qui sont responsables de l'activation de ce gène ou de la répression de ce gène. Et donc il y a des centaines de laboratoires dans le monde aujourd'hui qui utilisent ces technologies-là pour analyser leurs propres échantillons. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que d'une part, ça permet de prendre un instantané d'un tissu, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est au cours du développement. Et donc une autre étude qui a été faite à peu près au même moment, en 2007, donc l'étude précédente que je vous ai montrée ici, c'est une des premières études où on a démontré cette capacité d'utiliser les... Ce fameux code de l'histone pour comprendre ce que font les gènes dans différents tissus. Et ici, vous avez une étude qui a été publiée à peu près en même temps par Michelsen. Et là, il vous montre d'une part des profils avec des modifications qui sont caractéristiques d'un état d'activation en vert ou d'inactivité en rouge. Hein. La triméthylation de la quatrième lysine de l'histone 3, donc H3K4ME3, je vais l'appeler comme ça dorénavant. H3K4ME3, c'est un signal qui est associé à des régions actives, et par contre H3K27ME3, c'est associé à une répression, à des régions inactives de l'ADN. Et ce qu'on voit, c'est que détecté les profils de ces modifications, d'une part dans des cellules souches embryonnaires de souris, et ces cellules-là, ce qu'on voit, c'est que en fait, elles ont à la fois, sur ces gènes-là, les deux marques qui sont là. C'est-à-dire qu'elles sont bivalentes, on va les appeler bivalentes. Elles ont à la fois des modifications qui sont généralement associées à l'activité et d'autres à l'inactivité. Mais si on regarde plus tard, dans des cellules qui sont en cours de différenciation, ça, c'est des cellules précurseurs neurales. Et là, on voit que ce gène-là, le gène OLIG1, qui est un gène qui est spécifiquement... C'est un facteur de transcription qui est impliqué dans la différenciation neurale. Et bien ce gène-là, on va voir qu'au départ, dans les cellules embryonnaires, il est bivalent. Et puis, on va le retrouver, la marque active, dans les cellules qui vont devenir des neurones. Et par contre, ici, on a des fibroblastes. C'est des cellules qui participent à la structuration des tissus conjonctifs, donc qui ne sont pas des neurones. Et là, on voit qu'en fait, ce gène-là, ben, il va être marqué, il va être couvert de modifications qui sont associées à la répression. Et réciproquement, vous pouvez trouver d'autres, ils ont choisi soigneusement évidemment les gènes qu'ils étudiaient. Ici, on a un gène qui n'est pas exprimé dans donc PPARG. On voit qu'on a une marque bivalente dans les cellules souches. Cette marque disparaît dans les cellules neurales et elle reste dans les fibroblastes. Et donc avec ces combinaisons de marques, en fait, c'est ce qu'on appelle le code histone, on peut, pour chacun des gènes du génome, essayer de voir non seulement dans quel état il est, dans quel état d'activité il se trouve dans un tissu donné, et voir l'évolution de cet état d'activité. Alors ici, on vous montre quelques-uns des résultats de GTEx, donc l'étude qui permet de voir dans quel tissu sont actifs différents gènes. Ça, c'est l'expression, on mesure le niveau de transcrit, donc le niveau de l'ARN, la quantité d'ARN. Et donc là, il y a 53 tissus. Vous voyez par exemple un gène qui est transcrit dans les reins, dans les fibroblastes transformés et dans les artères et dans quelques autres tissus. Et ce gène-là, c'est un gène qui intervient dans la différenciation initiale de ces tissus, dans la différenciation cellulaire, c'est OX10. PAX6, je vous avais dit que c'est le gène qui est impliqué dans la formation de l'œil. Hein. Chez les mutants, il n'y a pas d'yeux, chez la drosophile. Chez l'humain, il y a aussi des défauts de formation de l'œil. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que chez l'adulte, ici, ils n'ont pas fait les marquages chez les embryons, mais chez l'adulte, PAX6 est encore exprimé dans certaines zones particulières du cerveau. Un gène qui a une fonction tout à fait particulière, c'est l'alcool déhydrogénase. Il a une fonction très spécifique puisque c'est un gène qui code pour une enzyme qui sert à détoxifier l'alcool quand il passe dans notre sang. Eh bien, cette protéine-là s'exprime exclusivement dans le foie. parce qu'évidemment, c'est l'organe qui sert à détoxifier le sang. Donc, il y a une très grande cohérence. Dès qu'on regarde ça, on peut regarder les 25 000 autres gènes, mais on n'a pas le temps ce soir. Mais en regardant ce qu'on va appeler leur profil transcriptomique, c'est-à-dire les tissus dans lesquels ils s'expriment, on a déjà une indication sur la fonction de ces gènes. Alors maintenant, comment ces mécanismes, maintenant je vous ai, j'ai passé quand même un petit peu plus de temps que je n'avais prévu à vous parler de ces différents mécanismes épigénétiques, comment est-ce qu'ils vont affecter l'organisme et aussi comment est-ce qu'ils peuvent répondre à l'environnement. Donc ce que je vais aborder maintenant, c'est la manière dont ces marques, ces modifications épigénétiques sont influencées par des changements de notre environnement, d'une part, et ce qu'on va faire la fois prochaine, c'est étendre ça en se demandant, une fois qu'un individu a été affecté parce que dans son environnement, il y a certaines choses qui se passent et que ça va affecter ça va affecter son épigénome, pour utiliser un mot qui représente l'ensemble de tout ça, est-ce qu'il transmet ces perturbations de son épigénome à sa descendance? Alors, ces perturbations ou ces modifications, parce qu'elles ne sont pas forcément des perturbations, ça peut être des adaptations phénotypiques. Et je vous avais parlé, lors de la première séance, d'un cas assez impressionnant de différence épigénétique, c'était avec les abeilles. Puisque les abeilles... Alors, les abeilles, il y a des différences génétiques et épigénétiques. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous voyez ici trois abeilles, il y a un mâle, et puis il y a la reine, et puis ici vous avez l'ouvrière. Et en fait la différence entre les mâles et les femelles, elle est génétique. C'est-à-dire qu'au moment, et elle est même très particulière chez les hyménoptères, chez les abeilles, les fourmis, les guêpes, etc. Au moment du vol nuptial, la reine se fait féconder par un mâle. Et elle stocke, elle emmagasine le sperme dans un organe particulier qu'on appelle spermathèque. Et puis pendant tout le reste de sa vie, elle ne va plus s'accoupler avec des mâles, elle va pondre des œufs. Et en pondant les œufs, occasionnellement, elle va ouvrir la spermathèque et féconder l'œuf. Et donc ça donnera une femelle. Et occasionnellement, elle ne va pas ouvrir la spermathèque, donc ça ne fécondera pas l'œuf. On aura un œuf haploïde avec une seule copie de chaque chromosome. Et cet œuf, une fois qu'il est pondu, il va donner un mâle. Donc c'est tout à fait particulier. Chez les hyménoptères, les mâles ont deux fois moins de chromosomes que les femelles. Chez les femelles, il y a un diphénisme, il y a deux types de phénotypes, il y a les reines et les ouvrières, et ça par contre, ce qui induit la différence entre les deux, c'est la nourriture que consomment les larves. Donc les ouvrières nourrissent les larves, et pour certaines larves, elles vont donner ce qu'on appelle la gelée royale, et pour d'autres pas. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait cette gelée royale, elle était extrêmement riche en une molécule qui est le phénylbutyrate, et ce phénylbutyrate est un inhibiteur de la fameuse HDAC dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'histone D-acétylase. Donc ça suggère qu'éventuellement, le mécanisme qui fait que une larve d'abeille va soit devenir une reine, soit une ouvrière, repose sur une modification de ces fameuses enzymes que je vous ai décrites en grand détail et qui vont faire des modifications des histones autour desquelles s'enroule l'ARN. Alors évidemment, pour le moment, c'est simplement une association. On voit qu'il y a du phénylbutyrate. On sait que le phénylbutyrate a généralement une capacité à réduire l'activité des acétylases, des histones D-acétylases. Alors, c'est les histones D-acétylases. Donc si on empêche les histones D-acétylases d'agir, ça veut dire qu'on va avoir de l'ADN qui est acétylé. Et l'ADN acétylé, il est actif. Donc on a sans doute plus de gènes qui sont actifs chez la reine que chez l'ouvrière. Non, ça a l'air très grossier comme mécanisme. Ça a l'air d'être un mécanisme assez grossier. Et donc ensuite, on peut chercher quels sont les gènes qui vont être marqués différentiellement par ces acétylases, quels sont les gènes qui seront acétylés chez la reine et pas chez l'ouvrière, et éventuellement s'il y a d'autres gènes qui seront acétylés chez l'ouvrière et pas chez la reine. Mais dans un premier temps, on se dit, tiens, voilà quand même une observation intéressante. Et puis on peut faire une expérience. Et l'expérience, ça consiste à artificiellement, chez des individus diploïdes qui n'ont pas consommé la gelée royale, donner des molécules qui inhibent les histones D-acétylases. Et dans ce cas-là, normalement, puisque c'est une abeille qui n'a pas consommé de gelée royale, elle devrait se différencier en ouvrière. Et ce qu'on constate, c'est que si on lui donne des produits chimiques qui inhibent l'histone D-acétylase, elle se transforme en reine. Donc voilà une recette assez simple pour devenir reine, même quand ce n'était pas inscrit dans votre destin. Vous pouvez soit manger de la gelée royale, il y a des gens qui font ça, soit consommer des acétylases, des inhibiteurs de l'histone des acétylases. Ce que je ne vous conseille quand même pas parce que ça va avoir peut-être d'autres conséquences, parce que ça va perturber tout votre épigénome. Donc vous pouvez imaginer que ça peut avoir des conséquences néfastes. Mais on va revenir là-dessus quand on parlera d'épigénothérapie. Je voudrais encore vous montrer une autre étude avant de conclure, hein, pour cette fois-ci, qui est assez impressionnante. C'est sur l'effet du tabagisme sur l'épigénome. Et notamment, il y a une étude qui a été faite à très large échelle sur des milliers d'individus où on a étudié l'impact du tabagisme de la mère enceinte sur l'épigénome du nouveau-né. Alors, je vous rappelle brièvement le cours de l'année passée. Donc, on a le génome, c'est une séquence d'ADN. Et ce qu'on a vu l'année passée, c'est qu'on pouvait distinguer dans les génomes deux types de différences entre les individus qui étaient très fréquents. C'est d'une part des microsatellites, ce qu'on appelle microsatellites, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions répétées du génome CAG, 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 et où d'un individu à l'autre, on va avoir 10, 20, 30 copies de ce même trinucléotide. Et là, par exemple, ce type de modification-là, de différence-là entre individus, ben, elle peut être associée à certaines maladies comme la maladie de Huntington. Et puis d'autres types de différences entre individus, des polymorphismes, qui sont des single nucleotide polymorphismes. Et là, c'est tout simplement une différence d'un nucléotide entre certains individus et d'autres individus. Je reviens au génome pour vous montrer après, enfin, je refais un petit passage par les études génomiques pour vous montrer ensuite ce qu'on fait sur l'épigénomique, parce que je voudrais qu'on discute de la différence entre les deux. Et je vous avais dit qu'on peut maintenant, avec des méthodes modernes, les biopuces, avoir, ici vous avez une biopuce, c'est une petite salle à la taille d'une lame microscopique, et sur cette biopuce-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un frottis buccal, et puis on va extraire l'ADN de votre frottis buccal, et on va utiliser cette biopuce pour marquer, caractériser votre génome, votre profil génomique, en caractérisant 1 million de polymorphismes comme ceci, où dans 57% de la population, les gens ont un A, dans 43% ils ont un G, et on va dire si vous avez un A ou un G à cet endroit-là. Et puis on passe à un autre endroit où il y a 90% des gens qui ont un T, il y en a 10% qui ont un C, et on va dire si vous avez un T ou un C. Et donc on va caractériser à échelle individuelle votre profil génomique. Ça veut dire qu'on va vraiment vous décrire votre génome avec une très très grande précision. Alors 1 million, ce n'est pas encore énorme, hein, puisque le génome fait 3 milliards de paires de bases, mais avec 1 million de marqueurs, on arrive quand même à détecter beaucoup de choses. Et puis ce qu'on fait, c'est que si on s'intéresse à une certaine maladie, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle une étude CAC-contrôle, où on aura quelques milliers de patients. Dans ce cas-là, c'est des études qui ont été faites avec 3000 contrôles, des gens qui sont en bonne santé, et 2000 patients. Par exemple, 2000 personnes qui souffrent de maladies coronaires, ou bien 2000 personnes qui souffrent d'arthrite rhumatoïde, ou bien 2000 personnes qui souffrent du diabète de type 1. Et puis on essaye de voir si parmi le million de polymorphismes, de SNP, donc de différences entre les individus, si parmi les millions de positions du génome où il y a des différences entre les individus, s'il y en a certaines qui sont associées à la maladie. Et là on voit qu'il y a toute une région du chromosome 6 qui est très très forte, qui est en vert, là, qui sort en vert, il y a un pic. La hauteur ici représente la force, le degré d'association entre le fait d'avoir à cette position-là du génome une lettre au lieu d'une autre et le fait d'avoir la maladie. Et ce qu'on voit, c'est que pour le diabète, par exemple, ben, dans le chromosome 1, il y a toute une région où il y a une très forte association entre certaines mutations et le fait d'avoir le diabète de type 1. Et puis, il y a un autre pic encore beaucoup, beaucoup plus significatif ici, dans le chromosome 6. Donc ces études-là, on les a menées, comme je vous l'ai dit, sur des maladies comme physiques, quoi, le type diabète de type 1, diabète de type 2, hypertension, etc. Et je vous ai dit, tiens, quand on a étudié le trouble bipolaire, qu'on appelait avant la maniaco-dépression, ben, on voyait qu'il n'y avait pas de région génomique associée à cette maladie-là. Alors ensuite, on a fait des études, là, à ce moment-là, on avait 3000 contrôle et 2000 patients. Mais ensuite, on a fait des études où on avait beaucoup plus de patients. Une fois qu'on commençait à regrouper un tas de troubles psychiatriques, on voyait commencer à sortir des locis. On voyait des associations significatives. Et ça, c'est parce que on commençait à avoir des dizaines de milliers de patients. Et il y a une étude que je vous avais montrée l'année passée où, avec 40 000 cas de schizophrénie et 113 000 cas de contrôle, ils avaient détecté 108 positions dans le génome qui étaient associées à la schizophrénie. Donc, ce que je viens de vous résumer ici, c'est les études qui sont vraiment classiques de ce qu'on appelle études d'association à échelle génomique entre une maladie et toutes les différences individuelles d'un génome. Et maintenant, l'idée, c'est de faire la même chose à l'échelle de l'épigénome. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, dans le cas de la maniaco-dépression, on dit qu'il y a une forte composante génétique dans la transmission, on ne détecte rien. Donc les gens disent où est l'hérédité manquante, donc de missing heredity. Donc ils sont à la recherche de la partie manquante de l'hérédité. Ou de la même manière pour d'autres maladies, pour des maladies, même pour des traits plus simples, comme la taille des individus. On sait que la taille des individus est un caractère héritable, avec une forte héritabilité. Puis on a fait des études génomiques comme ça et on arrive à expliquer 5 à 10% de la relation entre la taille des parents et la taille des enfants. Alors qu'il y a une corrélation beaucoup, beaucoup plus élevée, mais on ne peut pas détecter les facteurs génétiques. Il y a une corrélation d'une part, et d'autre part, il y a une héritabilité plus élevée aussi, mais on n'arrive pas à les détecter. Donc il y a toute cette zone d'ombre de l'hérédité qui manque, de l'héritabilité qu'on n'arrive pas à expliquer avec des études comme ça. Et donc certains collègues qui travaillent sur l'épigénétique se sont dit, on pourrait évidemment supposer que cette héritabilité, elle n'est pas liée à des facteurs génétiques, mais qu'elle est liée à des facteurs épigénétiques. Alors, il y a une étude qui a été faite sur le tabac, et donc je vous montre encore juste ici, le tabagisme. On a donc 1400 personnes, c'est une étude qui a été faite en Norvège, sur une cohorte norvégienne, et il y a là-dedans des femmes qui ne fument pas, et puis des femmes qui fument, et y compris des femmes qui ont continué à fumer pendant la grossesse. Et ce qu'on a fait, c'est avec les méthodes que je vous ai montrées précédemment, les méthodes de marquage des modifications chromatiniennes, eh bien on a essayé de détecter sur l'ensemble du génome des enfants, enfin de l'épigénome, sur l'ensemble des régions modifiées par acétylation, méthylation, etc., s'il y en avait qui étaient très différentes entre les enfants qui étaient nés de femmes qui fumaient pendant la grossesse et les enfants qui étaient nés de femmes qui ne fumaient pas pendant la grossesse. Et on en trouve quelques dizaines qui sont effectivement très significatif statistiquement. Enfin, une dizaine. On trouve une poignée de régions dans le génome qui sont très significativement associées au fait que la mère a fumé pendant la grossesse. Alors, évidemment, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est la cause de quoi. On n'interprète pas du tout de la même façon. Une étude comme celle-ci, où ce qu'on étudie, le dessin est le même. Le dessin, c'est un dessin où horizontalement, on a toutes les régions génomiques, où on marque. On alterne les couleurs pour montrer la succession des chromosomes et où, dans certaines régions chromosomiques, plus les points sont élevés, plus cela veut dire qu'il y a une association statistique entre le fait d'avoir une caractéristique génétique et le fait de manifester une maladie. Dans ce cas-ci, bon, ce n'est pas une maladie, c'est la présence de marques épigénomiques. Donc on a le même mode de représentation. Où vous voyez tout ce qui est au milieu, là, la grosse patate de points, c'est ce qui n'est pas significatif. C'est les endroits où il y a des petites fluctuations, mais qui sont ce à quoi on s'attend par les fluctuations de l'échantillonnage. Et puis, de temps en temps, vous avez une région où il y a une très très forte différence entre les marques épigénétiques des enfants nés de mères qui fumaient et des enfants nés de mères qui ne fumaient pas. Donc, ce que ça démontre, c'est que clairement, le tabagisme de la mère a un impact sur l'enfant. Maintenant, ce que ça ne démontre pas, et on va revenir là-dessus la fois prochaine, ça ne démontre pas que les marques épigénétiques aient été transmises de la mère à l'enfant. Parce qu'évidemment, l'enfant, il a subi le tabagisme également pendant la grossesse. Et donc, le fait d'avoir une association entre des facteurs environnementaux qui affectent la mère et certaines modifications épigénétiques de l'enfant n'est pas un critère suffisant pour dire qu'il y a une transmission héréditaire des caractères épigénétiques. Pour pouvoir le dire, il y a certains cas où on a montré une transmission transgénérationnelle des caractères épigénétiques, mais là, il va falloir encore des analyses beaucoup plus détaillées sur lesquelles on reviendra la fois prochaine.
Ma question, c'était s'ils ont vu l'expérience sur les femmes qui fumaient, mais qui ont arrêté de fumer pendant la grossesse.
Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait dans cette étude-ci, mais une partie des mêmes auteurs ont aussi fait ce qu'ils appellent une méta-analyse d'un tas d'études différentes. Et donc, il est possible que dans les autres... Alors, ça, c'est un seul article, mais où ils ont récolté des résultats d'un tas d'autres articles que je n'ai pas lus. Mais je pourrais vérifier si je trouve cette information. Parce qu'évidemment, il y a aussi... On pourrait raffiner la question. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi se demander si... Même pour des femmes qui ont arrêté, non pas pendant la grossesse, mais même avant, puisqu'il y a, enfin, avant, tout début, ou même au moment de la conception, du projet, hein, au moment où le couple fait le projet de concevoir un enfant, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent de fumer. Et donc, ce serait intéressant de voir, effectivement, comme vous le suggérez, hein, de comparer, d'une part, des enfants nés de femmes qui ont fumé pendant la grossesse, des enfants nés de fumeuses qui fumaient autant, mais qui se sont arrêtés avant la grossesse, et puis les enfants nés de femmes qui ne fument pas. Donc je pense que c'est une très bonne question. Je vais vérifier pour la semaine prochaine si je trouve des informations.
C'est un peu bête pour remarquer une association entre le tabagisme de la mère et une modification de la méthylation de certains gènes. Ça ne prouve pas qu'il y a une transmission directe ?
Absolument. Ça le prouve absolument, vous avez raison, ça ne le prouve pas du tout. Et justement, donc, c'est une des. Mais au moment où ils discutent de ça, évidemment, c'est parmi les hypothèses, ils discutent de cela. C'est qu'il y a une voie qui est vraiment possible, c'est que c'est par le tabac lui-même, par les molécules qui sont véhiculées par le tabac, que certaines vont affecter l'embryon. Parce qu'elles vont pénétrer à travers la barrière placentale, la protection placentale, et donc que l'embryon va lui-même être soumis à ces molécules toxiques. On va voir la semaine prochaine, je vais aussi parler des perturbateurs endocriniens. Il y a des études qui ont été faites chez les souris notamment, mais donc je détaillerai ça. Et donc effectivement, le fait que la mère soit soumise à des perturbations de son environnement ou à des agents toxiques, ça peut affecter le fœtus en passant à travers la barrière placentaire. Il y a aussi d'autres possibilités qui sont que les mères qui sont des grosses fumeuses aient aussi physiologiquement des différences associées par exemple au stress ou à des choses comme ça, et que ça peut aussi affecter des marques épigénétiques chez les enfants. Donc ça, il y a d'autres études où on étudie l'effet du stress sur l'épigénétique. Et donc, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des facteurs de confusion qui font que ces femmes ne diffèrent pas uniquement des non-fumeuses, les fumeuses ne diffèrent pas des non-fumeuses uniquement par le fait de fumer ou pas, mais par d'autres critères qui peuvent aussi jouer. Alors, l'ascendance, le fait que l'ascendance de ces femmes-là fumait, que leurs parents fumaient, l'ascendance dans quel sens, en fait?
Oui,
pas dans le sens génétique, mais dans le sens du comportement.
Peut-être que ça passe dans le génome, ça, je ne sais pas. Ouais. Après, il y a des marqueurs, j'en sais rien. Mais le fait que le grand-parent fumait, ça peut affecter, effectivement, et la mère qui porte l'enfant, ou le descendant de la mère. Enfin, bon.
Alors, il y a une possibilité qui serait que le fait que les grands-parents fumaient, si la grand-mère fumait pendant la grossesse, ou que le grand-père fumait et que la grand-mère fumait de façon passive, hein, qu'elle inhalait du tabac de façon passive, il est possible que ça ait eu cet effet-là sur la mère, et puis que la mère, à son tour, ça lui induit un comportement de fumeur. Donc ça, c'est pas quelque chose de complètement impossible qu'il y ait ce rôle-là. Mais c'est ici justement que les études d'épigénomique deviennent beaucoup plus difficiles à interpréter que des études génomiques. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais vous amener sur ce terrain-là. C'est-à-dire que quand on a une étude génétique, tout le paradigme de la génétique moléculaire est que les mutations sont aléatoires. Et je vous avais montré quelques exemples qu'il avait montré dans le cas de bactéries, que la mutation préexiste à l'action de l'environnement. Si vous mettez des antibiotiques sur une boîte où il y a des milliards de bactéries, quelques bactéries survivent. Ce n'est pas parce qu'elles ont changé leur génome en réponse à la présence de l'antibiotique. Les expériences de Lederberg et les expériences de Luria Delbrück ont montré qu'en fait, on exerce une sélection dans une population où il y a déjà, avant qu'on mette l'antibiotique, quelques bactéries qui ont, par le hasard des mutations, une capacité à résister à cet antibiotique-là. Et de la même manière, c'est un peu le paradigme général, c'est quand on fait des études d'association génomique, on pense qu'il y a des tas de différences entre les individus, il y a des millions, on en teste un million à la fois, ce qui est déjà pas mal, mais on sait qu'il y a des millions, des dizaines de millions de positions dans le génome qui diffèrent entre les individus d'une population humaine et qui font les différents, certaines d'entre elles font les différences phénotypiques, etc. Mais donc on ne pense pas que, ce qu'on pense c'est que le fait par exemple qu'ils aient le diabète de type 2, ce n'est pas le fait qu'ils aient le diabète de type 2 qui va changer leur génome, mais qu'au contraire, ce qu'on recherche, c'est des éléments du génome qui pourraient être la cause du diabète de type 2. Donc on a vraiment un schéma assez clair où les différences génomiques préexistent, les différences génétiques mais qu'on étudie ici au niveau du génome, donc les différences de séquences d'ADN préexistent, et que ces différences d'ADN ont des conséquences, soit parce qu'il y a une mutation dans la séquence qui code pour une protéine, et la protéine ne se reploie pas de la même façon, et donc sa fonction est affectée, soit parce qu'il y a des mutations dans les régions non codantes, et ça on les étudie maintenant de plus en plus, mais ces mutations dans les régions non codantes vont faire qu'un facteur transcriptionnel ne va plus se lier à cet endroit-là, et donc le gène en question, le gène qui est régulé normalement par ces régions non codantes, ben, il va s'exprimer dans les mauvais tissus, à un mauvais endroit, ou bien il ne va pas s'exprimer à l'endroit où il devrait s'exprimer. Donc ça, c'est le paradigme génétique. C'est les séquences d'ADN sont modifiées entre individus, et cela cause des différences phénotypiques. Et donc on cherche, sur base de phénotypes, ici dans ce cas-là des maladies, de remonter aux causes et de voir quelles sont les modifications génétiques qui sont les causes. Quand on fait des études épigénomiques, on est dans un schéma tout à fait différent, où en fait, ce qu'on sait, c'est que d'une part, effectivement, des différences d'accessibilité de l'ADN, de compaction de l'ADN, peuvent causer des phénotypes. On le voit avec les abeilles, hein, on déacétyle et puis on a un phénotype différent. Donc on sait que d'une part, des différences d'épigénotype peuvent causer des différences de phénotype. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que des différences de comportement, d'alimentation, de prise d'agents toxiques, etc., peuvent elles-mêmes influencer l'épigénotype. Et donc on a une relation de causalité qui peut aller dans les deux sens. Et donc ces études-ci sont beaucoup plus difficiles à interpréter. Alors quand on travaille avec des modèles animaux, un modèle c'est un euphémisme, donc on travaille avec des animaux qu'on sacrifie pour la science, quoi. Donc quand on travaille avec des modèles animaux, évidemment on peut concevoir des expériences qui vont permettre de distinguer entre ces deux possibilités, c'est-à-dire soit le traitement affecte l'épigénotype, soit que l'épigénotype fait que différents individus qui ont des épigénotypes différents ont des réponses différentes au traitement. On peut concevoir des expériences. Mais quand on travaille sur l'humain, ben comme on en avait déjà discuté il y a 3 ans, c'est beaucoup plus difficile de faire des expériences. Hein, on travaille plutôt sur de l'observation, fort heureusement. Enfin, on peut faire des expériences aussi si on dispose de traitements. Donc là, on peut faire des expériences où on donne un traitement à une partie de la cohorte, on donne un placebo à l'autre partie et puis on compare les effets.
Pourquoi tant de complexité pour moins de 100 ans?
Pour vivre moins de 100 ans. Mais tu sais, vivre 100 ans, c'est quelque chose de quand même... Enfin, vivre 100 ans, moi je trouve que c'est l'inverse en fait. C'est énorme quand on pense à tout ce qui se passe dès la première cellule, tu vois, qui se divise. Et on sait qu'à chaque division cellulaire, déjà, il y a une dizaine de mutations. Et donc, le fait que... il y a des milliers de divisions cellulaires qui donnent des milliards de cellules dans un corps humain. Et le fait que ce corps humain soit fonctionnel et fonctionne pendant 100 ans, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Parce qu'à tout moment dans ton corps, il y a des cellules qui se divisent. Et quand elles se divisent, il y a des mutations. Et occasionnellement, une de ces mutations va faire que, au lieu de se diviser de façon régulée, parce qu'elles se divisent aux endroits où il faut, entre guillemets, au moment où tu as une infection bactérienne, les cellules de ta moelle osseuse commencent à se diviser et à créer des lymphocytes, des cellules blanches, des globules blancs, hein, à créer des globules blancs qui vont attaquer les bactéries, qui vont organiser la défense de ton corps. Et puis au moment où l'infection diminue, ben, le taux de globules blancs va diminuer. Toute cette régulation est extrêmement précise. Hein. Mais ce qui arrive occasionnellement, c'est que donc, cette régulation des divisions qui fait que les cellules se divisent quand il y en a besoin et ne se divise pas quand il n'y en a pas besoin, mais de temps en temps, il suffit qu'il y ait une mutation dans un des gènes qui contrôle les divisions cellulaires, et ça, ça fait une cellule qui se divise sans arrêt, qui prolifère sans arrêt. Et ça, ça s'appelle un cancer. Donc ce que je trouve assez exceptionnel, moi, c'est que justement, le corps fonctionne aussi longtemps sans que ces choses-là nous détruisent. Donc je pense que la complexité qu'on a ici, En fait, ça, oui, je pense que cette complexité-là, elle est la clé de cette remarquable précision dans le plan du développement de l'embryon, et puis dans le fonctionnement de l'organisme et dans l'adaptation de l'organisme à des modifications de son environnement, dans sa capacité à répondre à des infections, à des attaques d'agents pathogènes, y compris d'ailleurs aux cellules cancéreuses, parce que des démarrages de cancer, il en arrive un peu partout dans notre corps à tout moment, mais notre système immunitaire a lui-même la capacité de reconnaître des cellules qui commencent à se diviser de façon incontrôlée et à les éliminer. Mais certaines de ces cellules, parfois, échappe à ce contrôle du système immunitaire, et là on a réellement un démarrage de cancer. C'est dommage. Ah oui, tu parles que le mot est faible. Oui, le mot est faible. Oui, vous avez une question? Ah, attendez, parce que. Oui, allez-y.
Vous avez dit qu'il y avait
aussi
un moment qu'on pouvait faire des thérapies sur des plus multiples, c'est en cours de recherche.
Oui. Je vais l'aborder la fois prochaine, hein, mais je vais essayer de trouver un exemple assez illustratif. Mais donc, certains cancers sont liés à une mutation d'une de ces enzymes qui interviennent dans la méthylation de l'ADN ou dans la méthylation des histones. Et une thérapie. Et donc, l'effet du cancer, ce n'est pas tellement à cause du gène muté, c'est qu'il y a d'une part le gène qui est muté, mais surtout, ça perturbe l'entièreté de l'épigénome. Puisque les gènes qui devraient être inactifs ne sont pas inactifs, des gènes qui devraient être actifs peuvent être actifs. Et donc il y a une tentative de mettre en place des thérapies qui reposent sur le fait de compenser la mutation de ce gène-là par un traitement chimique qui va soit désacétyler, soit acétyler selon les cas. Le problème évidemment c'est que les acétylations et les désacétylations, comme je vous l'ai montré, sont très très spécifiques de chaque tissu. Et donc ces traitements-là manquent encore de spécificité, parce que ça va soit inhiber l'acétylation, soit activer l'acétylation sur l'ensemble de tout l'épigénome. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de se retrouver la fois prochaine.